Bonjour Judith Lussier.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci d'être là. Judith, je le disais d'entrée de jeu, l'aide à la procréation assistée, c'est un débat qui est légitime bien sûr, mais qui est plutôt complexe. Et on vous remercie d'avoir écrit ce petit livre de 75 pages. C'est publié chez VLB, éditeur, l'aide à la procréation au Québec. Ça se lit en une heure, oui. J'ai fait l'exercice. Et ça permet de mettre les grandes balises, en fait, d'expliquer, de faire le tour sur ce questionnement-là, qui, pour vous, a été motivé par ce tollé autour de l'affaire du couple Legendre Bombardier, sa sortie au printemps dernier. En fait, c'était tout ce qui soulevait la venue de ces jumelles qui, le couple avait eu recours à une mère porteuse, donc recours...
À une ovule achetée aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Leur sperme était mélangé, donc...
C'était vaste déjà là. Ça vous a touché beaucoup.
Tous les enjeux de la procréation assistée en ajoutant ça que la gestatrice avait eu droit à un remboursement de l'État. Donc, ça recoupait tous les enjeux qui sont liés à la question de la procréation assistée au Québec.
Et ça vous a touché assez pour écrire un livre là-dessus?
Oui, j'ai écrit quelques chroniques à ce sujet-là et j'ai eu l'impression à un moment donné que... le sujet méritait un tour d'horizon. Hein. Chaque chronique abordait un des trois, quatre angles de cette question-là, mais j'ai eu le sentiment très rapidement qu'il fallait aller au fond des choses et donc dresser un portrait à 360 degrés de cet enjeu-là qui est multiple et qui est complexe.
Oui, et qui touche beaucoup d'aspects.
Oui, puis parce qu'on simplifie, si on ne s'y connaît pas très bien en matière de procréation assistée, on va simplifier à outrance parce que, la raison qu'on donne pour justifier le fait que l'État rembourse les démarches de procréation assistée, c'est que autrefois, quand on avait recours à la fécondation in vitro, ça coûtait très cher. C'est des interventions qui coûtent aux alentours de 10 000 $ par intervention.
Et ça ne marche pas du premier coup.
Souvent, les gens devaient s'hypothéquer pour avoir droit à deux ou trois cycles de fécondation in vitro. Et donc, pour maximiser le taux de réussite de du processus, allait implanter, par exemple, 2, 3, 4 embryons, ce qui donnait lieu à des grossesses extrêmement dangereuses. Et les gens se disent, on n'a qu'à interdire cette technique-là qui est agressive, qui a des résultats dangereux pour la santé.
Mais si on l'interdit, ça coûte plus cher.
Mais si on l'interdit, ça fait en sorte que les couples qui veulent recourir à la fécondation in vitro et qui ont des moyens limités, vous savez, quand on paye pour sa démarche de fécondation in vitro, on veut des résultats, c'est compréhensible, vont aller à l'extérieur dans des juridictions voisines où là, on leur interdit pas d'avoir recours à des techniques plus agressives, vont revenir au Québec avec leurs problèmes de santé liés à ces techniques-là et donc on n'aura pas résolu le problème. Donc, c'est ça, en fait, que je voulais... c'est de cette question-là dont je voulais faire le tour parce que c'est pas simple comme problème à régler.
Oui. Et il y a aussi un autre concept qui est abordé dans le livre dont je n'avais jamais entendu parler. C'est ce concept d'infertilité sociale. Mm-hmm. On connaît l'infertilité dite plutôt médicale. Mm-hmm. Ça va. On comprend bien l'enjeu, l'ampleur également. Mais l'infertilité sociale, vous avez vraiment un point de vue là-dessus plutôt nouveau, je dirais.
C'est une expression qui a été... apporté dans le débat un peu pour cerner, pour distinguer deux clientèles des cliniques de fertilité, les clientèles traditionnelles de personnes victimes d'infertilité médicale et une autre clientèle constituée soit des célibataires ou des couples de même sexe qui, biologiquement, n'ont pas nécessairement, quoi qu'ils peuvent en avoir, des difficultés reproductives. Donc, leur infertilité découle de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial. Et je trouve que ça pose problème, cette distinction-là, parce que ça exclut des clientèles qui, au fond, ne peuvent pas changer rien à leur situation. Et aussi, à peu près toutes les causes d'infertilité sont sociales. Mais surtout, ce que ça apporte, comme je trouve que c'est inutile comme distinction, parce que de toute façon, les raisons pour lesquelles on facilite la procréation assistée de toutes les clientèles, c'est pour réduire le taux de grossesse dangereuse. Donc, c'est vraiment... Ça décentre le débat de la question réelle, qui est une question de prévention en soins de santé.
Mais selon vous, est-ce que l'aide à la procréation assistée, médicale, assistée, c'est accessible pour tout le monde? Est-ce que ce débat-là, ce qui s'est passé en avril dernier, ça nous a permis de dire, OK, bien sûr, on avait l'impression que, d'entrée de jeu, c'était plus accessible pour des couples hétéros, mais infertiles, mais est-ce que maintenant...
Non, le programme rend les techniques très accessibles. Il n'y a aucune discrimination en ce moment qui est faite auprès des femmes célibataires, des hommes célibataires, des conjoints de même sexe. Mm-hmm. Quoique au niveau des hommes célibataires, c'est un petit peu plus compliqué là, pour des raisons techniques. S'il y a un problème d'accessibilité, à la limite, c'est en région. Par contre, le programme était menacé. Bon, on sait que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, alors qu'il était directeur de la Fédération des médecins spécialistes, avait déjà déclaré qu'il était contre ce qu'il appelait un bar ouvert, c'est-à-dire qu'il trouvait que le programme manquait de balises, était trop permissif, ciblait trop large. Et maintenant qu'il est ministre, par contre, les dernières nouvelles qu'on en a eues, c'est qu'il avait tenu compte, il allait tenir compte du rapport de la commission au bien-être et à la santé qui recommandait le maintien du programme avec quelques ajustements administratifs. Par contre, on apprenait lundi que le centre de fertilité du CUSUM avait toujours pas de place dans les nouvelles installations du CUSUM. Donc ça, c'est un peu inquiétant là, pour l'avenir du programme. Mais aux dernières nouvelles, le ministre semblait ne pas avoir l'intention de couper le programme.
Donc, le livre continue à s'inscrire dans l'actualité, Judith Lucier. Le temps file, enfin, on n'en a presque plus, mais je réinvite les gens à aller lire, à aller se procurer l'aide à la procréation au Québec. C'est publié chez VLB Éditeur. Et puis, on peut continuer à vous lire dans le journal Métro.
Je vais continuer à suivre ce dossier-là de près, effectivement, dans mes chroniques.
Et je pense qu'on continuera en parler parce que ça touche tellement d'aspects, que ce soit plus du point de vue émotif ou aussi médical. On aurait pu parler aussi de tout l'impact de la santé sur la santé des femmes.
La question des mères porteuses.
Tout à fait.
Qui est délicate.
Mais on peut lire le livre pour en savoir davantage. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.